Radio Okapi. Grande interview.
Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de Radio Okapi, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Grande Interview. Notre invité ce matin s'appelle André Mbata. Il est professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa et de Johannesburg en Afrique du Sud. Nouvellement élu premier vice-président de l'Assemblée nationale en remplacement de Jean-Marc Aboun pour le compte de l'UDPS, André Mbata nous parle de la diplomatie parlementaire contre l'agression rwandaise. En plus du rejet par l'Assemblée nationale de l'accord de coopération avec l'Ouganda, suite à sa complicité, André Mbata annonce le refus de la RDC de participer à l'Assemblée parlementaire francophone qui aura lieu en juillet à Kigali. Dans cette émission, nous aborderons aussi la problématique des priorités de l'Assemblée nationale sur le plan législatif et tout particulièrement, nous allons décrypter la loi électorale votée le 15 juin dernier par les deux chambres du Parlement. Nous co-animons cette émission avec Alain Irungu qui la supervise. Je suis Michel Kifindangoy pour la coordination et la présentation. Merci de rester à l'écoute. Alors, professeur Mbata, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes de retour du Maroc où une décision importante a été annoncée du Parlement congolais qui suspend sa participation à l'Assemblée parlementaire francophone qui aura lieu à Kigali. Qu'est-ce qui a motivé cette décision aussi extrême?
Je dois d'abord vous remercier de l'occasion que vous m'offrez. Et bien sûr que je reviens de Rabat au Maroc où j'étais envoyé en fait au nom du Parlement par l'honorable Christophe Mbosso Kodiapoanga, le président de l'Assemblée nationale, et j'étais chargé d'une délégation que je conduite à la 28e Assemblée parlementaire de la francophonie région Afrique, dont 28 parlements sont représentés, ce qui constitue plus de la moitié des pays membres de l'Union africaine. Et il était donc crucial que la voix de la RDC à travers son parlement puisse se faire entendre. Et à l'occasion de cette 28e Assemblée de l'APF région Afrique, j'ai effectivement transmis le message qui a trait à la situation actuelle. Et non seulement nous prenons la place, notre place comme RDC, comme Parlement, là également il faut le signaler, nous sommes le plus grand pays francophone. Donc l'APF ne peut pas se réunir sans nous. Et à cette occasion, nous avons demandé à nos collègues parlementaires de pouvoir s'intéresser à la situation en RDC. Nous avons dit que nous sommes victimes d'une agression, et c'est clair, cette agression est de la part du Rwanda, c'est une énième agression, et nous avons demandé qu'on puisse condamner le Rwanda, que le Rwanda devait récupérer ses marionnettes du M23, les ramener d'où il les a fait partir, et comme la 47e session de l'APF doit se réunir à Kigali du 5, je crois, au 10 juillet, nous n'y participerons pas. Pour autant que Kigali, le Rwanda, continue à nous agresser.
Effectivement, vous parlez de l'agression rwandaise, mais la dernière réunion des chefs d'État des pays de l'Afrique de l'Est n'a pas fait allusion à l'agression rwandaise. Vous ne trouvez pas que la position de la RDC pour le moment n'est pas suffisamment portée par les voisins?
Donc, mais je dois dire une chose, c'est la deuxième fois que j'ai réagi à ce type de questions. Il y a certains médias qui ont essayé de m'opposer à mon chef d'État. Non, voilà, à Kigali, on n'a pas dit ceci. Mais écoutez, l'Assemblée nationale représente la nation. À Kigali, c'était une réunion diplomatique. À Nairobi, notre chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, était clair là-dessus. Mais les gens doivent comprendre que quand il faut signer un communiqué, il faut que tous ces chefs d'État la signent, sinon ils ne signeraient pas. C'est ce qui explique le langage diplomatique. Mais nous, nous sommes le Parlement congolais, en harmonie d'ailleurs avec le chef de l'État. Notre peuple est agressé. Que peut être la voix d'un parlement, des représentants de la nation? C'est condamné. Il ne sera plus question. Vous avez vu des militaires rwandais envahir le territoire national. C'est le M23 qui est utilisé par Kigali. Et vous le savez, beaucoup le savent. Nous devons condamner. Et c'est la première fois, je crois, que vous en souviendrez. Nous citons clairement les adversaires. En 2013, le M23 avait cessé d'exister. Il avait été neutralisé. Mais d'où vient-il? Mais il vient de sa cachette. On l'a réarmé pour les intérêts que ces commanditaires connaissent. Donc pour nous, c'est un groupe terroriste dans la mesure où il viole tous les droits humains dans la partie est du pays. Et on ne va pas par le dos de la cuillère, c'est le Rwanda qui utilise le M23.
Les chefs d'État à Nairobi se sont mis d'accord
pour le déploiement d'une force régionale neutre pour traquer les forces négatives en RDC. Ça ne sera pas la première force constituée des armées étrangères. N'est-ce pas une naïveté, une fois de plus, du gouvernement congolais d'accepter que les forces étrangères viennent travailler en lieu et place des FARDC?
Non, mais écoutez, ce n'est pas une naïveté. Nous aurions également pu demander à la SADC. Nous pouvons également demander à la CIAC dont nous sommes membres. Donc ce n'est pas une naïveté, ça relève des compétences de ces organisations internationales. Mais ce qui est clair, c'est quoi? Nous autres Congolais, les autres ne viendront pas travailler à notre place. Et le chef de l'État l'a dit, nous allons renforcer notre armée. Nous n'attendons pas l'entrée de la force régionale. Mais notre armée est en train de se réorganiser, nous devons nous battre. Au moment où les reliques du héros national, Patrice Emery Lumumba, sont encore dans le pays, ça doit interpeller le commun des Congolais. C'est-à-dire nous sommes une nation forte. C'est debout Congolais, debout contre l'agression. J'espère de ma part que ces reliques de Lumumba qui sont passées à travers le pays, en fin de compte, nous ramènent le message du 30 juin. Nous avons hérité de l'un des plus beaux pays de la planète. Et la libération de ce pays, elle ne nous viendra pas des forces régionales ni étrangères. Elle viendra d'abord de nous-mêmes. Et le président Félix Tshisekedi est constant là-dessus, et nous en sommes constants, nous allons nous battre, et d'autres ne seront que des forces d'appoint.
Professeur, oui, nous allons nous battre, oui, c'est très bien. Mais vous, Assemblée nationale, en tant qu'autorité budgétaire, qu'est-ce que vous donnez à cette armée comme moyen, comme finance pour qu'elle puisse se battre au lieu que la population aujourd'hui? La solidarité, c'est bien, on amène quelque chose pour les FARDC, mais ne faudrait-il pas que l'Assemblée nationale, l'autorité budgétaire, donne les moyens nécessaires et conséquents à l'armée pour ça?
Bon, mais je crois déjà le budget en cours. L'Assemblée nationale avait augmenté le budget des forces armées. Le budget en cours, vous pouvez vous informer. Évidemment, vous comprenez, nous sommes l'autorité budgétaire, mais nous avons la théorie de la séparation de pouvoirs. Vous ne pouvez pas demander au Parlement de faire le rôle de l'exécutif. Vous avez l'exécutif, le législatif et le judiciaire, d'après la théorie de Montesquieu, la séparation des pouvoirs. Nous sommes l'autorité budgétaire. Déjà, dans le budget en cours, nous avons prévu un budget qui n'a rien à voir avec les budgets précédents en ce qui concerne l'armée. Et lorsque nous revenons au mois d'octobre, vous pouvez nous suivre, vous pouvez venir à l'Assemblée nationale. Nous allons encore accroître le budget de nos forces armées, des forces de défense et de sécurité.
Vous avez entendu la voix de Alain Irung, fidèles auditeurs. Cette émission, nous la co-animons avec lui. Alors, professeur, l'Ouganda, vous l'avez dit au cours d'une plénière, qui est aussi complice de l'agression rwandaise. Et en même temps, l'armée ougandaise mène des opérations conjointes avec les FARDC. L'opinion se demande, est-ce que la même armée qui nous agresse viendra pour chercher la paix dans notre pays? Comment vous comptez résoudre cette énigme?
Bon, nous pensons que l'Ouganda a suivi le message. C'est par cette porte-là que le M23 est entré. Et pour nous, entre amis, ça c'est un acte de trahison. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons refusé, nous, Assemblée nationale, de ratifier un accord avec l'Ouganda. C'est pour dire que cette Assemblée nationale, ce n'est pas le type d'Assemblée que vous avez vu dans le passé. Nous allons nous battre pour le peuple congolais, en tant que représentants du peuple. Nous n'avons pas demandé l'avis de l'exécutif. Nous avons refusé de ratifier l'accord avec l'Ouganda, et je crois que cela va lui servir de leçon et de se comporter en conséquence. Nous allons prévoir des moyens plus consistants pour notre armée, pour nos forces de défense et de sécurité.
Vous êtes à l'écoute des radios Okapi. Grande interview reçoit dans ces numéros le professeur André Mbata. Il est premier vice-président de l'Assemblée nationale, responsable de toutes les questions législatives au sein de cette chambre du Parlement. Avec lui, nous parlons à présent des priorités du professeur André Mbata et de son bureau au sein de l'Assemblée. Professeur, vous venez de le dire, l'Assemblée nationale d'aujourd'hui n'est pas celle que nous avons connue hier. Qu'est-ce que votre présence, votre passage à l'Assemblée va apporter concrètement de nouveau au sein de cette institution?
Bon, je dois d'abord dire une chose. D'abord, c'est exprimer ma gratitude. Ma gratitude, vous savez, je suis de l'UDPS, du parti présidentiel. Je suis de l'Union Sacrée. Et être de l'UDPS, de l'Union Sacrée, être présenté comme unique candidat à la première présidence, il faut avoir aussi la bénédiction du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, que je remercie, et le leadership de mon parti, l'UDPS. Et il faut aussi dire merci à l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale. Vous le savez, j'ai été élu avec un score historique, 402 ou 403 députés sur les 500. Et tous confondus, Quelles sont les priorités? Je crois que la Constitution, le règlement intérieur de l'Assemblée est clair. Le premier vice-président assume 3 missions. La première mission, c'est s'occuper des questions législatives, des lois, les lois électorales, je crois que vous en parlerez. La deuxième mission, c'est s'occuper des relations avec les groupes parlementaires. Nous en avons 17, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. Donc, et la troisième mission, on venait à peine de l'évoquer, le premier vice-président, il s'occupe de la diplomatie parlementaire. C'est ce que nous venons de faire à Rabat au Maroc. Et ce n'est pas fini. C'est ce que nous allons faire encore, parce qu'il y a un périple qui est prévu. La voix de la RDC doit se faire sentir dans toutes les institutions internationales. Qu'est-ce qu'on attend de moi? On attend de moi beaucoup de choses. Eh bien, ce sont des fonctions que j'ai acceptées avec beaucoup d'humilité. Les espoirs également sont lourds. Qu'est-ce que j'entends faire? Et ça, je l'ai dit le jour de mon élection. Première mission, question législative. Je vais m'efforcer, en tout cas, que cette Assemblée devienne encore plus productive en ce qui concerne les matières législatives. Je voudrais voir beaucoup plus de lois, pas seulement en quantité, mais aussi en qualité.
Quand vous étiez dans l'opposition, vous aviez beaucoup critiqué le régime Kabila pour avoir cherché à s'accrocher au pouvoir. Vous avez dénoncé des violations de la Constitution. Et aujourd'hui, vous êtes maintenant le vrai défenseur de cette Constitution. Mais on vous accuse, généralement, vous les intellectuels, surtout les constitutionnalistes que vous êtes, d'avoir cette capacité de manipuler les articles de la loi à votre guise, tout en sabotant la Constitution. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous, ou vous êtes prêt à changer la tendance?
Non, mais je crois que nous avons des problèmes en matière constitutionnelle. Je crois, et je dois le dire avec humilité d'ailleurs, le problème c'est que dans ce pays, il n'y a pas beaucoup de constitutionnalistes. Beaucoup de gens qui nous critiquent, ils ne sont pas eux-mêmes constitutionnalistes. Ça prend du temps, ça demande de la recherche, ça demande de faire du droit comparé pour comprendre la Constitution. Ce n'est pas n'importe quel texte. L'interpréter, ce n'est pas facile. Ailleurs, ça prend au moins le seul. J'ai souvent dit, parce que je donne le même cours à l'Université d'Afrique du Sud, et je suis professeur extraordinaire, je reste pauvre. Donc, ici, ça vous prend 2 ans à étudier un seul cours, interprétation constitutionnelle. 2 ans de master. Donc, ce que je dois dire, c'est qu'on doit s'efforcer. Le président Félix Tshisekedi, et nous-mêmes au niveau de l'UDPS et même de l'Union Sacrée, dans l'ensemble, notre idéal, c'est promouvoir l'état de droit. Évidemment, rien n'est parfait. Mais nous devons, sous ce régime, sous cette mandature, nous allons faire de notre mieux pour que l'état de droit s'établisse et se consolide dans notre pays. Ça, c'est en ce qui concerne les questions législatives. Je crois que vous n'avez pas abordé l'autre question, c'est les groupes parlementaires. Mais cela, ça m'émeut. Le premier vice-président doit traiter avec tous les groupes. Et je suis heureuse, ils ont déjà donné le signal. Le PPRD a voté pour moi à l'Assemblée nationale, malgré tout ce que les gens disent. Et beaucoup de collègues m'ont appelé. Nous savons que vous nous critiquez beaucoup, mais nous venons voter pour vous. Et j'étais sensible, et ils sont venus, et vous les avez vus. Je suis également redevable, c'est-à-dire une fois là, vous n'êtes pas seulement le premier vice-président de l'Union Sacrée, mais vous êtes aussi le premier vice-président de l'opposition.
Avec cette logique scientifique que vous voulez apporter au niveau de l'Assemblée nationale, ça peut à un certain moment vous heurter avec les intérêts de votre parti. Ne craignez-vous pas que le sort que celui de votre prédécesseur Jean-Marc Abound vous soit réservé au cas où vous ne suivez pas fidèlement les orientations du parti?
Non, mais il ne faut pas comparer les deux choses. Il ne faut pas me comparer à mon prédécesseur. Mon prédécesseur est parti pour des raisons que tout le monde connaît. Il n'est pas parti parce qu'il défendait l'état de droit, ni la Constitution. Non, pas du tout. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai la joie et je suis fier d'appartenir à un parti démocratique. Et mon parti sait d'avance que le prof est là pour l'état de droit. Donc jusque-là, nous n'avons pas eu de problème. Et si je suis venu effectivement, c'est parce que mon parti a estimé qu'il fallait ce changement pour aller dans le sens de l'état de droit. Donc jusque-là, je ne vois pas de problème et mon parti... Lorsque j'ai été élu, lorsque membre du parti, j'exprime la même voix et mon parti suit. Je suis heureux que j'ai finalement aussi un parti qui m'écoute. Et j'ai des dirigeants du parti qui m'écoutent. Et ça, c'est une très bonne chose qui a manqué à d'autres personnes qui poursuivaient peut-être leur carte personnelle. Donc il n'y a rien à comparer là-dessus.
Aujourd'hui, professeur, on ne peut pas parler de professeur André Mbata à l'Assemblée nationale sans qu'il y ait une corrélation avec la loi électorale. beaucoup, non seulement parmi les députés, mais au sein de la population congolaise, vous considèrent comme celui qui a tripoté la proposition du G13 pour faire sortir la proposition de loi qu'on a actuellement, et que c'est vous un peu l'homme par qui le mal s'est revenu.
Merci pour la question. Mais je crois, je suis heureux, et je crois, je suis déjà intervenu sur la loi électorale, ça fait plus d'une semaine. Mais il y a quelque temps, lorsque je parlais de la loi sur la CENEPA, commençons, tout commence par là. Qu'est-ce qu'on ne disait pas? Oh, pourquoi vous faites du forcing? Et la CENI a été mise en place. Au départ, il y avait quelques désaccords avec nos amis de l'opposition. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu? On a signé un accord, l'opposition a accepté ce qui a été fait parce que c'était le fruit d'un accord. Après cela, nous sommes arrivés à la loi électorale, le G13. Bon, vous parlez en constitutionnaliste. C'est qu'on met, je vous ai dit qu'on va améliorer la qualité législative et quantitative de la législation telle qu'elle est, elle est édictée par l'Assemblée nationale. Une proposition de loi, c'est une initiative d'un député. Même en français facile, il y a une différence entre proposer, c'est l'Assemblée nationale qui dispose. Un député amène une proposition, il s'y gère. Il n'impose pas. C'est à l'Assemblée nationale de voir ce qu'il y a à retenir. Mais ce qui fait mal, c'est quoi? Vous amenez une proposition de loi, vous croyez que vous avez décidé au nom de l'Assemblée qui est souveraine. C'est ça le problème. J'ai fait une conférence là-dessus, sur la loi électorale. Vous avez entendu encore le G13 se plaindre? Vous avez entendu l'opposition? Vous avez entendu la CINCO? Tout le monde est d'accord que la loi électorale, telle que nous venons de l'adopter, c'est la meilleure des lois. Elle est meilleure que les autres. Le système de transparence, l'affichage, la publication des résultats, la présence des témoins. Mais tout ça a été réglé. Lorsque nous disons qu'une liste électorale et qui a plus de la moitié, qui a au moins 50% de femmes, et ne paye pas le cautionnement. Mais le cautionnement, ce sont des montants colossaux que parfois les partis n'ont pas. Mais ça, c'est pour promouvoir la représentation féminine. Dans notre pays, le problème, c'est lequel? Même quand on fait un pas en avant, on recule. Les gens ne savent même pas reconnaître le pas qu'on a fait. Nous sommes sur cette voie-là. Même Rome n'a pas été construite en un jour. Et à l'endroit de l'opposition et de nos médias, ayons l'honnêteté de reconnaître ce qui est fait. Et Radio Okapi doit être félicité. Parce que vous venez à la source, vous posez les questions, et le pauvre Mbata, il accepte toujours toutes les questions, quelles qu'elles soient. Donc voilà ce que je peux dire à ce sujet-là.
Vous venez de nous rejoindre en cours d'émission sur Radio Okapi. Grande interview reçoit le professeur André Mbata. Avec lui, nous décryptons maintenant la loi électorale pour une grande compréhension. Alors, professeur, vous avez décidé, dans la loi que vous avez votée, que le seuil d'acceptabilité des listes soit retenu à 60%, alors que les Sénats parlent de 20%. Comment vous avez résolu cette divergence au sein de la parité?
Bon, la divergence a été résolue. Vous savez, au terme de la Constitution, l'Assemblée nationale a cette chance que c'est elle qui décide en dernière analyse. Et on a retenu le 60%. Pourquoi 60%? Et qu'est-ce qu'on voulait par là? Vous savez, nous sommes dans un pays avec plus de 700 partis politiques. Ce n'est pas possible. Quel est ce pays au monde qui a 700 partis politiques? Il y a même des partis tribaux, des partis familiaux, des partis ethniques, des partis mallettes, comme vous le savez. 700 partis politiques, qu'est-ce que vous pouvez faire? Non. Il a fallu, dans tous les sens, essayer de faire quelque chose dans ce nombre-là, rationaliser le jeu politique. Même les États-Unis ont combien de partis politiques? La France en a combien? Et la Belgique en a combien? Donc, pour nous, il a fallu ce seuil-là pour qu'on ait le plus grand parti s'exprime et que finalement, le peuple soit représenté à travers les grands partis, les grands courants, comme ça existe ailleurs. Voilà pourquoi nous sommes allés dans ce sens-là.
Professeur, en même temps, vous défendez les grands partis, vous voulez que les partis mallettes, les partis familles puissent disparaître, mais vous avez maintenu les dispositions qui ont été très critiquées, sur la suppléance par exemple, où on a vu des sièges réservés à des clans, à des familles. Quand le titulaire part, il est sa femme, il est sa fille, son cousin, son neveu. C'est de l'immoralité politique, ne trouvez-vous pas?
Bon, mais écoutez, la suppléance n'a rien à voir avec les partis mallettes. Le problème ici, c'est
la suppléance par les membres des familles.
La suppléance, rien à voir avec les partis mallettes, parce que vous les trouvez même dans les grands partis. Ici, il y a d'abord la conscience interdit de la discrimination sur base familiale. régionale ou ethnique. Nous n'avons pas voulu emprunter cette voie-là. Pour respecter la Constitution, effectivement, vous parlez à un constitutionnaliste. Si nous l'avions fait, nous allions violer cette loi-là, la non-discrimination, le droit à ne pas être discriminé. En vertu de quoi est-ce qu'on pouvait discriminer ces gens-là? Mais ce qui est important, c'est ceci. L'immoralité. Vous n'allez pas taxer notre peuple d'immoralité. Parce que lorsque vous voyez qu'un candidat se présente, c'est vous les souverains primaires. Premier suppléant, sa femme. Deuxième suppléant, son fils aîné. Mais pourquoi est-ce que vous allez voter pour une telle personne? Pourquoi est-ce que vous voterez pour quelqu'un? C'est au peuple de décider. Donc ce travail sur la loi électorale doit continuer à se faire avec un travail d'éducation politique.
Professeur André Mbata, il y a la question de la représentation ou le fait que le président Joseph Kabila devrait se représenter ou pas aux prochaines élections. Il est sénateur à vie, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Joseph Kabila ferait-il si peur au point que les tshisekédistes sont pratiquement troublés?
Non, mais comment, hein? C'est une question qui revient souvent. Mais nous, on aurait bien voulu avoir Joseph Kabila, parce qu'on le battrait, si jamais il était candidat. Et c'est un peu le regret de l'UDPS. Nous aurions bien voulu l'avoir, parce qu'on le battrait à plate couture. Mais non, il faut avoir du respect pour notre ancien président. Et moi, j'ai ce respect-là. Joseph Kabila, malgré ses torts, il nous a dirigés dans ce pays. Joseph Kabila, c'est lui-même qui a promulgué la Constitution dont nous parlons. Joseph Kabila, c'est notre ancien président, et s'il vous plaît, il ne vous appartient, il n'appartient à personne. Il fait partie du patrimoine national. Que les gens de l'opposition, du PPRD, ils se trompent. Joseph Kabila ne leur appartient pas. Il a dirigé un pays. Il appartient à tous les Congolais. Ça doit être clair. Il nous a dirigés pendant 2 mandats, qu'on le laisse tranquille. Il a le droit de se reposer. Parce que quand il était au pouvoir, il n'a même pas trouvé plus de 10 personnes parmi les siens qui pouvaient l'aider à mieux diriger le pays. Et maintenant, vous le réclamez? Et si jamais il revenait, est-ce qu'il trouverait plus de 10 personnes là où il n'en a pas laissé 10 après 18 ans de pouvoir? Et alors, pourquoi vous voulez le ressusciter, le faire revenir? Non, qu'on laisse Joseph Kabila tranquille. Il a 2 ans dirigé pendant 2 mandats. L'article 220, il ne reviendra pas. Est-ce que ce n'est pas si facile à comprendre? Et puis, un sénateur à vie, vous voulez qu'il renonce à la vie? C'est pourquoi j'ai toujours été clair dans ces choses-là. Peut-être les gens n'ont pas toujours compris l'image. C'est-à-dire qu'il faut mourir et ressusciter le troisième jour sous une nouvelle identité. Est-ce qu'il est sénateur à vie? Vous voulez le tuer? Vous voulez qu'il renonce à la vie? Non. Voilà, je crois que la réponse est assez claire. Joseph Kabila, il fait partie du patrimoine national. Il a fait des mauvaises choses, mais il a fait aussi quelques bonnes choses. Il fait partie du patrimoine national, qu'on le laisse tranquille, il a le temps de se reposer, et que d'autres candidats surgissent pour pouvoir, s'ils ont des ambitions, à diriger le pays.
On critique beaucoup dans la loi que vous avez votée au niveau de l'Assemblée nationale sur les conditions de transparence des résultats, surtout dans la transmission des résultats des bureaux de vote vers le Centre national de compilation. Professeur, pourquoi vous avez refusé que les résultats soient publiés bureau de vote, au lieu de se limiter simplement à l'affichage?
Bon, je comprends. Il y a un problème en droit. Il y a une différence entre affichage et publier. C'est la CENI qui doit publier. Et là-bas, on parle de l'affichage. C'est tout. Je crois que nos amis juristes devraient comprendre cela.
Mais le chef du bureau de vote est responsable de la CENI.
C'est le responsable. Vous savez même, quand on parle de la CENI,
oui.
La CENI, souvent, quand on parle de la CENI, on parle de 15, non? Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Quand on parle de la CENI, c'est d'abord le bureau de la CENI. C'est lui qui engage la CENI. C'est lui qui publie.
Le bureau qui est politique,
qui a
été désigné par les forces politiques en place. Donc, on sent que la classe politique veut avoir l'emprise sur organe qui est censé être neutre.
Cher ami, mais ne nous ramenez pas au premier débat. J'ai toujours dit, et je le reprends, la CENI ne peut pas être apolitique. Pourquoi? Parce que c'est une institution politique. Les élections elles-mêmes, ça fait partie pour ceux qui étudient les sciences politiques ou le droit constitutionnel. Mais les élections font partie du jeu politique. Comment voulez-vous que celui qui organise le jeu politique ne soit pas politique? Il y a une différence entre politique et partisan. La CENI a été, elle est, elle sera toujours politique. Mais ce qu'on lui interdit, c'est d'être partisane en faveur d'un tel parti ou d'un tel regroupement politique. Vous voulez que la CENI sera seulement politique lorsqu'il va dire que le président Félix Tshisekedi n'est pas réélu? Bon, d'abord, il sera réélu parce qu'on s'y bat. Mais disons, il sera réélu parce qu'il a fait mieux que tous les autres avant lui. Et notre peuple lui reconnaît.
Certains disent que parce que vous avez déjà planifié la fraude dans la loi.
Non, il sera réélu. Il faut voir tout ce qu'il a fait, ce qu'on est en train de faire. Cette guerre de l'Est, nous serons les premiers à y mettre un terme. Et même le discours que nous tenons sur l'Est, vous êtes étonnés. C'est la première fois que vous entendez ce discours. Vous savez qu'il y a certains partis politiques incapables d'aligner 100 témoins dans le pays. Pourquoi? Parce que les témoins, vous devez les payer vous-même. Vous envoyez un témoin. Oh, nos témoins n'étaient pas là. Mais vous ne payez même pas une bouteille d'eau à votre témoin. À 10 heures, il arrive à 6 heures. Pendant que les autres mangent, il n'a rien à boire, il quitte à midi. Mais lorsqu'on va afficher le résultat, il ne sera plus là. Organisez-vous pour avoir des témoins dans tout le pays.
Pour mettre les témoins partout, professeur, il faut avoir maîtrisé la cartographie des bureaux de vote. Et vous, à l'Assemblée nationale, vous avez prévu que la cartographie soit publiée à la veille de la campagne électorale, alors que tout le monde...
Pas à la veille, avant la campagne. Ce sera au moins 30 jours. Parce que la cartographie peut changer avec les événements. Okay. Évidemment, nous ne voulons pas demain. Nous ne serons pas agressés. Nous aurons mis un terme à l'agression rwandaise. Mais nous ne voulons pas, si c'était dans les circonstances actuelles. Vous avez les élections le 30 juin 1960. Vous avez établi une cartographie bien avant. Et puis vous avez les M23, ces marionnettes du Rwanda, qui viennent. Et tous les bureaux changent. Ils pillent même les bureaux de vote, comme la fois passée. Ils prennent les bulletins de vote. Vous voyez ce que ça fait? C'est pourquoi on a prévu que la cartographie sera publiée, et ça, nous avons répondu à la demande, et bien avant la campagne, bien avant les élections. C'est pour tout dire au niveau de la loi électorale qu'on s'organise à aller aux élections, qu'on ne passe pas le temps inutilement, qu'on s'organise. Vous voulez arriver au pouvoir?
La position du Sénat de publier la cartographie 30 jours avant la campagne a été adoptée par la parité.
Nous n'avons pas tout rejeté du Sénat.
Ok.
Le Sénat, c'est en fait, c'est la deuxième chambre. Nous ne pouvons pas tout. C'est comme deux fesses sous une même culotte, les deux chambres du Parlement. Et vous, comment vous allez les détacher? Donc nous n'avons pas tout rejeté. Il y a des choses que nous avons effectivement considérées au niveau de l'Assemblée nationale.
Professeur Mbata, l'une des dernières questions de cette émission, parlons du social des Congolais. Plusieurs Congolais se plaignent que la vie est devenue très dure, en plus de tout ce qui se passe entre la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Les Congolais mangent difficilement, s'habillent difficilement, envoient difficilement ses enfants à l'école, pendant que vous, ses représentants, vous êtes dans des palissades, dans des maisons climatisées. Qu'est-ce que vous répondez à ces millions de Congolais qui vous suivent?
Non mais écoutez, les Congolais ont élu. Il ne faut pas détacher les élus de leurs électeurs. La conscience les députés nationaux représentent la nation. Et cette nation est grande. Moi j'ai été élu à Dimbelenge. J'ai des sons de cloche de Dimbelenge. Je ne peux pas oublier Kinshasa. Je ne peux pas oublier Bunagana parce que mon mandat est national. C'est ça l'ensemble de la nation. Évidemment, dans certaines villes, les conditions sont difficiles. Dans les villages, elles sont aussi différentes. Mais ce qu'on peut dire, c'est que nous-mêmes, au niveau des élus, nous ne sommes pas satisfaits des conditions de notre peuple. Et nous avons été élus pour apporter un changement. Et nous allons continuer à nous battre. Seulement, notre peuple doit comprendre que nous venons d'un très grand trou. Nous venons de 18 ans de gâchis, de gabegie financière. C'était la catastrophe. Et nous sommes en train de nous en sortir progressivement. Nous ne sommes pas encore nous-mêmes arrivés là où nous devrions être. Parce que nous disons, c'est le peuple d'abord. Donc, ce ne sera pas un jour, on va continuer à se battre. Nous, au niveau du Parlement, nous allons faire notre travail. Mais nous contrôlons aussi le gouvernement. C'est le gouvernement qui applique la politique. Nous allons rester, nous allons contrôler les entreprises publiques. Parce que la question de corruption, la question de détournement des deniers publics, la question des gens qui ne font pas leur travail, il faudra que le gouvernement ait ça. Ça sera aussi ma contribution, ma petite part, parmi tous les députés, pour que nous puissions mettre un terme à la corruption dans ce pays. On doit mettre un terme à la corruption. Voilà donc, c'est dans ce sens-là que nous allons, tant soit peu, contribuer à l'amélioration des conditions de vie du peuple qui nous a élus.
Professeur André Mbata, je vous remercie.
Je vous remercie, je remercie Radio Okapi pour cette occasion que vous m'avez donnée de m'exprimer, de communiquer indirectement avec notre peuple.
Ainsi prend fin Grande Interview. Cette émission vous a été préparée sous la supervision de Alain Irung. Michel Kifindangoy vous l'a coordonné et présenté, accompagné bien sûr de Alain Irung. Je prends rendez-vous avec vous pour un nouveau numéro samedi prochain, 10h05. Merci et au revoir.